Mittlerweile hat
Le professeur Stéphane Hambourg a passé en revue avec de nombreuses autres personnes les plus de 2000 pages de fichiers du RKI qui ont été déclassifiés. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est ce qui se cache derrière les innombrables passages caviardés par le RKI. En effet, le RKI a certes dû divulguer sur décision judiciaire ses documents internes sur l'historique des vaccins Covid, mais auparavant, il les a caviardés. L'ensemble de cette enquête porte donc en premier lieu sur des questions urgentes telles que le RKI était-il ou non au courant à temps des effets mortels, des dangers pour la santé et de l'inutilité de principe des vaccins Covid ? En effet, si le RKI était au courant à temps, mais qu'il avait tout de même poursuivi sur les peuples cette expérience, de toute façon anticonstitutionnelle, il ne resterait plus qu'à envisager l'emprisonnement à vie pour tous les participants. Qu'en est-il maintenant? J'anticipe d'emblée le résultat. En fait, le RKI savait déjà avant le début de la vaccination, et encore plus dès les premiers jours, à quel point ces injections anti-Covid étaient destructrices et mortelles pour les populations. Il connaissait également l'inutilité totale des masques, de l'obligation de porter un masque et de bien d'autres choses encore. Le RKI savait que toutes ces décisions essentielles avaient été commandées et manipulées politiquement, mais qu'elles n'étaient en aucun cas fondées sur une base scientifique sérieuse. Et maintenant, bien que d'innombrables vies aient été détruites et que ces mensonges politiques du RKI aient été mis en lumière, l'OMS, Big Pharma et tous leurs vassaux des autorités sanitaires et des politiciens haut placés continuent tout simplement imperturbablement leur meurtre comme avant. Poursuivent leur génocide. Je vais maintenant vous guider à travers cette tragédie en deux étapes. Dans la première, nous allons examiner les analyses de Stéphane Hambourg, qui a travaillé dur pour le développement pour nous. C'est là que nous apprenons ce qui se cachait réellement derrière les parties caviardées de ces fichiers RKI. Dans la deuxième étape, nous nous pencherons sur les horreurs qui se répètent actuellement, par le biais des mêmes vaccins expérimentaux dangereux et surtout par le biais des mêmes meurtriers insolents. Comme nous ne les avons toujours pas mis sous les verrous, ils continuent à agir sans être inquiétés, mettant en danger la vie de peuples entiers, mais aussi celle de nos animaux d'élevage et de bien d'autres choses encore. Si nous n'arrêtons pas à temps ces criminels de haut vol et leurs entreprises de destruction du peuple, ce genre de personnes mettra fin à la vie de beaucoup d'entre nous, mais d'abord à notre santé. Vous feriez mieux de le croire. Alors, tenez bon jusqu'à la fin, cela en vaut la peine. Et puis, diffusez ces informations jusqu'aux extrémités de la Terre.
Première étape, l'analyse des fichiers du RKI par Stéphane Hambourg.
Après la publication des protocoles du RKI dénoncés, certains médias mainstream se sont aussitôt jetés dessus et ont immédiatement publié, comme à l'époque, « Il n'y a rien de spécial dedans ». Mais il faut lire attentivement les 2500 pages. Et si on le fait, on trouve des contenus vraiment hallucinants, comme par exemple les suivants.
Premièrement, lancement de la campagne de vaccination.
Nous regardons le procès-verbal du 19 mars 21, donc assez tôt dans la campagne de vaccination. Nous y lisons.
AstraZeneca, beaucoup d'agitation en général. Maintenant, 12 cas de thrombose de la veine sinusale, tous après vaccination. L'Institut Paul Ehrlich, PEI, a reçu lundi un total de 1600 déclarations. Le PEI et les services de pharmacovigilance ne suivent pas bien le rythme. La Norvège suspend la vaccination jusqu'à nouvel ordre.
Et maintenant, rien qu'après ces premières notes scandaleuses, l'ordre par négligence grave.
Continuez à utiliser AstraZeneca comme avant.
L'affirmation selon laquelle le PEI n'arrivait pas à suivre le rythme correspond parfaitement à la déclaration de la chef de service de l'époque, le docteur Keller Stanislavski, à la commission d'enquête du Brandebourg. Je cite textuellement ce qu'elle y a dit. Il y avait des gens qui ne s'occupaient que des décès et des gens qui ne s'occupaient que des myocardites. Nous avons eu beaucoup plus de travail que jamais auparavant, juste à cause de ce vaccin. Et là encore, je dis, s'il vous plaît, réveillez-vous, chers concitoyens, et comprenez ce que le RKI a fait avec ses caviardages. Il a enterré sous ses passages biffés de noir, pour ainsi dire de manière tout à fait réelle, les cadavres qu'il a produits. Mais pas seulement comme un meurtrier qui enterre sa victime parce qu'il a commis un meurtre par erreur et veut simplement continuer à vivre en toute impunité. Non, bien au contraire. Derrière ces caviardages du RKI, on découvre plutôt un tueur avide de meurtre qui enterre soigneusement tous ses cadavres pour pouvoir ensuite continuer à tuer sans être reconnu et sans être poursuivi. Comprenez-vous cela? Il est donc cruel qu'un mois à peine après la réunion du RKI, au cours de laquelle des dommages flagrants ont été signalés, l'article suivant paraisse dans le Spiegel le 8 avril 2021. Karl Lauterbach s'est fait vacciner avec AstraZeneca. Très étrange. Mais passons à l'analyse de Stefan Hambourg.
Deuxièmement, tromperie délibérée du public.
Le deuxième thème qui revient régulièrement dans les procès-verbaux concerne les tromperies délibérées du public par le RKI. En ce sens que le RKI a publié soit des informations erronées, soit des informations incomplètes. Dans le procès-verbal du 24 mars 2020, soit exactement un jour après l'entrée en vigueur du confinement, on peut lire ceci.
Hier, un échantillon positif sur 40. Les résultats virologiques suggèrent que le coronavirus ne circule pas largement. La surveillance virologique de l'AGI donne l'impression qu'il n'y a pas de circulation virale importante. De nombreux laboratoires annoncent une augmentation de leur capacité de test. Et maintenant, la capacité de test ne devrait pas être communiquée à l'extérieur.
Les laboratoires se préparaient donc déjà à une forte demande de résultats de tests, même s'il n'y avait pas encore de circulation virale pertinente. Et à nouveau, seulement un jour plus tard, le 25 mars 2020,
il est préférable de ne pas formuler les tendances pour le moment, car il pourrait alors être difficile de justifier d'autres mesures.
De toute évidence, les rapports du RKI ont été délibérément manipulés dès les premiers jours afin de pouvoir justifier d'autres mesures de confinement. Et c'est précisément ce qui apparaît toujours comme le cœur de l'histoire. L'accent a été mis sur les mesures voulues par les politiques, et le RKI a eu pour rôle de justifier ces mesures d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'il est devenu évident que les mesures étaient infondées, comme on vient de le lire dans le procès-verbal, cette évidence n'a pas été communiquée à l'extérieur.
Troisièmement, effet secondaire.
Le sujet des thromboses des sinus coronaires devient également effrayant. Nous lisons le 9 avril 2021.
Thrombose des sinus coronaires comme effet secondaire du vaccin AstraZeneca. Aujourd'hui, de plus en plus d'hommes sont concernés.
Et puis encore une fois, une négligence grave.
Il y a donc également une incidence 20 fois plus élevée chez les hommes par rapport à l'incidence de fond.
Qui a déjà entendu parler d'incidents de fond? Cela signifie en effet l'apparition normale de cas dans la population. Et ceux qui ont été vaccinés avec AstraZeneca ont donc eu un risque 20 fois plus élevé que ceux qui ne l'ont pas été, sans que cela n'ait jamais été communiqué à tous les politiques, et encore moins à l'ensemble de la population. Et bien que plusieurs pays aient déjà suspendu la vaccination, l'Allemagne a non seulement continué, mais un mois plus tard, la presse titrait
« Spahn se fait vacciner avec AstraZeneca. Le ministre de la Santé, Jens Spahn, s'est fait vacciner vendredi contre le Covid, comme il le dit en toute connaissance de cause, avec AstraZeneca. »
Comment est-il possible qu'à cette époque, des centaines de personnalités soient mortes devant les caméras? Vous connaissez notre émission phare à ce sujet. Des centaines de sportifs, de musiciens, mais aussi de présentateurs, d'acteurs, de maires, etc. sont tombés raides morts, mais pas un seul homme politique de premier plan. Leur vaccination n'était-elle qu'un spectacle organisé par les lobbies pharmaceutiques? Pourquoi aucun d'entre eux ne partage-t-il le destin d'un Christian Pulse? C'était un avocat et un sportif accompli. Il s'est fait vacciner avec AstraZeneca peu après la publicité de Spahn. Il est aujourd'hui à moitié aveugle et on lui a retiré la moitié de la boîte crânienne. Son dommage dû à la vaccination est officiellement reconnu et il reçoit donc une indemnité de l'État à peu près équivalente au RSA, donc presque rien en fait. L'article du Berliner Zeitung indiquait que le vaccinateur lui avait dit qu'AstraZeneca n'était dangereux que pour les jeunes filles qui prennent la pilule, et non pour un homme comme lui. C'était premièrement faux et deuxièmement incroyablement cynique, car les jeunes filles étaient aussi prises comme cobayes, et pour elles, il y avait des recommandations de vaccination. À vrai dire, sans aucun fondement objectif. Rien n'a été correctement testé avant l'autorisation. Nous y venons.
Quatrièmement, dommages collatéraux pour les personnes âgées et les jeunes.
Le protocole RKI du 2 mai 2020 indique
« En particulier, les personnes âgées et très âgées qui reçoivent des soins à domicile ou dans des maisons de retraite considèrent qu'elles subissent les dommages collatéraux de l'exclusion sociale et physique, pire que leur peur d'une mort possible à cause du Covid-19.
On a donc sciemment enfermé les personnes âgées contre leur gré, pire que des détenus. Elles n'avaient pas le droit de sortir dans les maisons de retraite et leurs proches ne pouvaient pas leur rendre visite. Cela a duré jusqu'à la mort pour beaucoup d'entre eux. D'innombrables personnes ont donc souffert de dépression et la consommation de substances addictives a augmenté de manière dramatique. Malgré cela, ce ne sont pas ceux qui ont trompé consciemment le peuple qui ont été traînés devant les tribunaux, mais des personnes honnêtes, comme le juge d'instance de Weimar, Christian Detmar. Beaucoup ont connu le même sort que l'inoffensive directrice d'école primaire, suspendue depuis près de 4 ans pour avoir voulu sauver des enfants du masque, ou des médecins consciencieux qui ont été condamnés par la justice pour avoir délivré des certificats de contre-indication au masque. Avec le recul, nous savons que les masques étaient inutiles et nous apprenons ici que le RKI était parfaitement au courant des graves dommages causés.
Cinquièmement, doute sur l'efficacité du vaccin.
Derrière les textes caviardés du RKI, on voit aussi leurs doutes quant à l'efficacité de la vaccination. Dès la phase précoce en avril 2021, le RKI a posé en interne la question suivante.
Pourquoi le taux d'incidence des personnes de plus de 80 ans ne baisse-t-il pas à moins de 50 à 100 000 habitants malgré la vaccination? Réponse, probablement parce que la vaccination ne protège pas nécessairement de l'infection.
Mais un an plus tard, lors du procès devant le tribunal administratif fédéral concernant l'obligation de vaccination des soldats, le RKI a tout de même insisté sur la sécurité et l'efficacité du vaccin.
Sixièmement, la politique donne les directives.
L'intervention politique est un thème très lourd de conséquences qui apparaît régulièrement au grand jour dans les procès-verbaux. Regardons d'abord cet extrait de différents protocoles. Tout d'abord,
le 22 avril 2020, on dit que le document « Testé, testé, testé » vient de Jens Spahn.
Le ministre de la Santé souhaitait que le plus grand nombre possible de tests soient effectués. Il en a résulté une incidence élevée qui, à son tour, a justifié la poursuite du confinement et ainsi de suite. L'email de Jens Spahn est particulièrement intéressant avec son contenu.
Le 26 juin 2020, si nous fixons le risque à modérer en Allemagne, ne devrions-nous pas inclure l'obligation de porter un masque?
La réponse du RKI n'est pas documentée ici, mais elle ne peut être que la suivante. Bien sûr, s'il n'y a plus de risque élevé, nous ne pouvons pas obliger les gens à porter des masques toute la journée en plein été. Et le 29 juin 2020, à peine 3 jours plus tard, le ministre fédéral de la Santé a donné un ordre contraignant.
Risque toujours élevé. Objectif du ministre fédéral de la Santé, rien ne sera changé avant le 1er juillet.
Et nous le savons, rien n'a été changé pendant près de 3 ans. Ce n'est qu'en 2023 que le risque a été réduit à modéré.
Septièmement, les tests rapides font grimper l'incidence.
Contre toute évidence, le RKI a noté ce qui suit le 31 août 2020 et l'a ensuite dissimulé sous un caviardage.
Le ministre Spahn a émis l'idée de développer fortement la surveillance virologique au moyen des tests rapides d'Abbott. Cela ne semble pas judicieux.
Et sous le mandat de Spahn, le RKI a sans doute réussi à empêcher les politiques d'ajouter les tests rapides aux tests PCR. Cela a changé à partir de décembre 2021, lorsque son successeur, Karl Lauterbach, est entré en fonction. Écoutez ce que Lauterbach a dit ici dans le débat télévisé.
Madame Köpping, vous avez probablement aussi ce sujet. À combien estimez-vous le nombre de cas non recensés?
Eh bien, ce ne sera pas si élevé que cela, car de nombreuses personnes doivent désormais se faire tester au travail. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas simplement se faire tester chez eux, mais qu'ils le font aussi au travail, en présence d'une autre personne, de sorte qu'il y a aussi là un témoin. Nous avons entre-temps formé des personnes dans les entreprises. Elles ont été formées pour tester. C'est donc aussi ce qui se passe. Dans les écoles, on fait des tests en commun. Ceux dont vous parlez sont des gens...
Mais ce sont des tests rapides?
Ce sont tous des tests rapides.
Exactement. Ils ne sont pas pris en compte dans les statistiques.
Bien sûr, ils sont aussi évalués. Nous avons déjà connu la situation décrite par M. Lauterbach. Nous avons déjà connu la situation où les services de santé ne pouvaient plus tester tout le monde avec des tests PCR ou n'arrivaient plus à suivre. Le test rapide, s'il était positif, servait également de base aux services de santé publique pour prononcer justement une quarantaine.
Depuis quand est-ce le cas? donc vraiment sûr. Les talons or, c'est le test PCR.
Oui.
D'où ma question sur les données. Maintenant, avec les chiffres énormes qui explosent, je trouve que c'est une question importante. Depuis quand le test rapide antigénique, s'il est positif, est-il considéré comme un cas Covid-19 dans les statistiques, même s'il n'est pas fiable? Donc, s'il est déclaré au ministère de la Santé, le test antigène compte évidemment aussi. Nous allons maintenant passer, je ne veux pas anticiper sur le projet de décision de ce week-end, mais nous travaillons actuellement sur une situation où, pour la première fois, nous irons même jusqu'à signaler ceux qui ont été testés positifs, mais qui n'ont pas nécessairement besoin du test PCR, que nous signalerons quasiment via le système, mais que nous déconseillerons même le test PCR, parce que nous avons besoin des tests PCR pour des mesures très particulières. Ils doivent être priorisés. Mais Mme Köpping a décrit de manière tout à fait correcte. Donc si un test d'antigène est effectué et est signalé au service de santé, il est bien sûr valable.
Le professeur Stéphane Hambourg a déclaré textuellement à ce sujet.
Cela signifie que sous le mandat de Lauterbach, même les tests rapides ont été ajoutés aux tests PCR, à côté des tests obligatoires pour les travailleurs sous 3G. À côté des tests sans motif dans les écoles et dans les crèches. Et c'est ainsi qu'on a généré des incidences astronomiques telles qu'il n'y en a jamais eu avant ni après. On a alors mis cela sur le compte d'un virus prétendument plus infectieux, Omicron. Mais je pense que c'était purement le résultat de cette illusion de test. Huitièmement, les politiques font pression sur le RKI.
Revenons à la question de l'ingérence et de l'influence politique. Le protocole suivant a aidé le professeur Dr. Stéphane Hambourg à mieux comprendre le RKI et ses motivations. Remarque préliminaire. Le mot CDS-Schalte est un terme utilisé dans le langage courant des chefs des chancelleries des 16 Länder allemands et signifie téléconférence. Les chefs des chancelleries d'État ou CDS préparent régulièrement des réunions du Conseil fédéral pour leurs ministres-présidents. Et c'est ainsi que nous lisons
Valeur SAE de CDS 35. L'avis du RKI, un seuil unique peu pertinent.
C'est d'autant plus criminel de continuer à dire
si le RKI ne répond pas à la demande politique, les décideurs politiques risquent de développer eux-mêmes des indicateurs et ou de ne plus faire appel au RKI pour des missions similaires.
Cette inquiétude était justifiée, car avec Max Planck, Helmholtz, Leopoldina, toutes sortes d'institutions étaient prêtes à produire des documents chocs et de nouvelles données provoquant l'hystérie. On voit donc que la grande fraude n'est pas venue en premier lieu du RKI, mais que le RKI a été l'auxiliaire du mal en s'agenouillant et que sa propre influence croissante était plus importante pour lui que la santé de la population.
Neuvièmement, rôle de la Chine.
Dans un autre procès contre le gouvernement fédéral, ce dernier argumente qu'afin de ne pas perturber les relations entre les deux pays, il est nécessaire de caviarder ce qui concerne la Chine. Mais le passage analysé par Stéphane Hambourg donne une impression totalement différente. Il est dit ici dans le procès verbal des 13 et 14 février 2020, alors que nous n'avions donc pas encore de pandémie en Allemagne.
La Chine ne souhaite pas que les grands pays industrialisés du G7 soient impliqués. L'Allemagne semble avoir une longueur d'avance en matière de confiance. Il y aura une réunion mercredi prochain avec l'ambassade de Chine pour parler, par exemple, de sujets de recherche et de futures coopérations. Les ministères de la Santé et des Affaires étrangères sont informés des rencontres. En outre, l'ambassade s'est engagée à ce que le RKI reçoive à l'avenir le paquet actuel de la Commission de la Santé de la Chine.
Le professeur Hambourg, qui a effectué ce travail préparatoire pour nous, aimerait maintenant savoir ce que contenait ce paquet, car il soupçonne qu'il comprenait des couvre-feux, des confinements, des interdictions de contact et des obligations de porter un masque.
Dixièmement, les partis toujours caviardés.
Pour ne pas être trop long, il faut encore signaler que dans cette édition des protocoles du RKI, il y a encore des passages qui sont caviardés. Et ceux-ci semblent être considérés par les autorités comme les plus délicats de tous, car il y aura également des plaintes concernant ces passages. Le professeur Hambourg montre à ce sujet un exemple important, car il permet de deviner ce qui s'est caché sous le caviardage. C'est écrit en bas.
Normalement, on prévoit 12 à 18 mois à partir du début de la phase 1.
Par phase 1, on entend la première phase d'une autorisation de mise sur le marché d'un vaccin. Cette première phase d'une autorisation dure donc entre un an et un an et demi.
Et maintenant, le caviardage continue. Si les régulateurs en décident ainsi, cela peut prendre moins que 12 à 18 mois.
Et ce qui est caviardé ne peut, selon Hambourg, que signifier en substance, si on émet des étapes importantes de l'autorisation et qu'on met en danger la santé de la population en sautant simplement ces passages, le vaccin peut être autorisé plus rapidement. Bien que les rapports sur les dommages causés par les vaccins Covid affluent presque chaque semaine en Suisse et à l'étranger, notamment aux États-Unis, ces abuseurs de pouvoir, ces escrocs et ces meurtriers insolents ne cessent pas pour autant leur activité. C'est exactement le contraire qui se produit. Regardons tout de suite quelques exemples récents.
Deuxième étape, des répétitions cruelles. Premièrement, l'OMS veut être plus agressive contre les opposants à la vaccination.
Dans un discours prononcé le 28 mai 2024, le chef de l'OMS, Tedros, annonce sans embâche son intention de prendre des mesures plus sévères contre les opposants à la vaccination. Citation.
Les opposants à la vaccination représentent un sérieux défi. Je pense que nous devons développer une stratégie pour vraiment riposter. Je pense qu'il est temps d'être plus agressif contre les opposants à la vaccination. Je pense qu'ils utilisent le Covid comme une opportunité et qu'ils sont conscients du chaos qu'ils provoquent.
Je dois rappeler une fois de plus que Tedros a été, peu de temps avant son arrivée à la tête de l'OMS, l'un des dirigeants d'un régime de terreur cruel dans son pays, qui a utilisé une violence sanglante contre tous ceux qui ne se sont pas pliés à sa volonté satanique. Regardez à ce sujet le dossier Tedros. Et ce sont précisément ces criminels qui évoquent actuellement le danger de la grippe aviaire en diffusant de fausses informations. Les prochaines préparations non testées sont déjà commandées par millions, afin de lâcher sur le monde de nouveaux vaccins ARNm sans contrôle.
Deuxièmement, l'Allemagne se prépare à la prochaine pandémie.
La grippe aviaire n'existe encore que dans les médias, mais la production de vaccins est déjà en train de monter en puissance, comme dans le nouveau centre de compétences pour les ARNm à Halle, dans la plus grande ville de Saxe-Anhalt. Une nouvelle usine high-tech devrait à l'avenir produire 200 millions de doses de vaccins par an. Le gouvernement fédéral en a déjà réservé une partie.
Troisièmement, les méthodes mafieuses de l'OMS.
La juriste et journaliste Shabnan Paleza Mohamed a publié le 3 juin 2024 un rapport spécialisé intitulé « Pourquoi l'OMS a-t-elle le droit de menacer ses États membres pour qu'ils abandonnent leur souveraineté ?» Il y est fait état de véritables méthodes mafieuses utilisées pour faire passer finalement le règlement sanitaire international modifié lors de l'Assemblée générale de l'OMS à Genève.
Un délégué indien a déclaré qu'ils avaient été intimidés et menacés de ne pas rentrer chez eux tant que les amendements au RSI 2005 n'auraient pas été adoptés. On nous a dit que nos pays seraient mis sur des listes noires, soumis à un embargo, marginalisés par les médias grand public et que les voyages internationaux seraient limités. D'autres délégués et parties intéressées ont également confirmé que des délégués avaient été menacés. Les informations suivantes m'ont été communiquées de manière fiable à Mme Mohamed. Cela donne l'impression qu'il n'y a pas eu d'accord, mais les délégués subissent des pressions pour signer cet accord aujourd'hui. Rien n'a été accepté. L'OMS fait semblant d'être en accord avec tout le monde et tentera plus tard de modifier les changements. Ils essayent de tromper l'humanité.
Ces deux événements en amont de la 77e Assemblée mondiale de la santé du 27 mai au 1er juin 2024 incitent également à s'interroger. Le président iranien, Ebrahim Raisi, est mort dans un accident d'hélicoptère le 19 mai. Le premier ministre slovaque, Robert Fico, a survécu de justesse à un attentat le 15 mai. Tous deux étaient connus pour leur opposition au projet de domination exclusive de l'OMS.
Quatrièmement, l'OMS veut imposer sa domination exclusive.
Le journaliste d'affaires Norbert Hering raconte également comment l'Assemblée mondiale de la santé a adopté le 1er juin 2024, au cours d'une session nocturne, un texte de réforme jusqu'alors inconnu du public. Profitant sournoisement de la réforme du règlement sanitaire international, l'OMS veut désormais pouvoir déclarer des pandémies sans obstacle majeur. Mais la réforme du RSI a été réalisée de manière irrégulière. En fait, les États contractants auraient dû recevoir le texte pour examen 4 mois avant de le signer. Le texte final n'a été présenté que lors de l'Assemblée elle-même. En plus de l'urgence sanitaire de portée internationale, il existe désormais la situation d'urgence pandémique. Celle-ci peut déjà se produire lorsque certains risques de péril existent. Cela signifie, par exemple, un risque de propagation internationale d'une maladie, une surcharge des systèmes de santé ou des perturbations sociales économiques. Autre démarche agressive de la part des fraudeurs de la vaccination, ils ont obligé les États parties à s'engager à lutter contre la désinformation et la mauvaise information. Les demandes de censure de l'OMS sont donc en train d'être cimentées au niveau international.
Cinquièmement, lutte contre la désinformation ou censure totale ?
Les exemples suivants montrent à peu près ce qu'on peut imaginer en matière de lutte contre la désinformation.
Grand A. Les cas d'autopsie révèlent que 74% des décès sont dus au vaccin Covid.
Un collège de médecins composé de Peter McCulloch, Harvey Rich, Roger Hodgkinson, William Mackis, Mark Trozzi et leurs collègues a examiné tous les rapports d'autopsie publiés jusqu'au 18 mai 2023 concernant le vaccin Covid. Sur 325 cas d'autopsie documentés, ce collège a constaté que 240 d'entre eux, soit 73,9% des décès étudiés, étaient causés par le vaccin Covid. Et il y a quelques mois, la revue médicale The Lancet a tout simplement supprimé de son serveur de prépublication, dans les 24 heures, cette étude hautement capitale sur la vaccination Covid. À quel point est-ce responsable ?
Grand B. Étude. Les personnes vaccinées ont plus de risques d'être infectées par les nouveaux variants du Covid-19.
Selon une étude récente qui a examiné les données du personnel de la Cleveland Clinic, il existe un risque accru d'infection par le Covid-19 chez les personnes qui ont reçu plus d'une dose de vaccin. Les résultats de la recherche, publiés sous forme de prépublication, ont montré que les personnes ayant reçu 2, 3 ou plus de 3 doses de vaccin présentaient un risque accru d'infection par rapport à celles qui n'en avaient reçu aucune ou une seule. Le risque était multiplié par 1,5 pour 2 doses, par 1,95 pour 3 doses et par 2,5 pour plus de 3 doses. Les résultats de l'étude soulignent des recherches antérieures montrant une plus grande vulnérabilité aux infections à Covid-19 chez les personnes ayant reçu plusieurs vaccins. Dans sa vidéo, un médecin généraliste du Land de Hesse montre que ses patients ont un risque beaucoup plus élevé de contracter des infections récurrentes, surtout en été, ce qu'il ne connaissait pas auparavant. Il a rendu visibles les données de ses patients dans un tableau et les a également comparées avec les données du RKI. De manière concordante, les Landers ayant le taux de vaccination le plus élevé ont connu les taux d'infection les plus élevés. Le RKI a été confronté à ces faits en septembre 2022. Il n'y a pas eu de réponse. Au lieu de cela, la page qui affichait depuis des années l'évolution hebdomadaire des infections a été supprimée peu après par le RKI. Cela montre à nouveau l'intention agressive délibérée de ne pas protéger les peuples des influences destructrices et de leur cacher la vérité. C'est hautement criminel.
Sixièmement, une lanceuse d'alerte témoigne. 80% des études sont fausses.
Dans une interview accordée à Newsflix, la biologiste Dr Sabine Stäbel a révélé des vérités explosives sur le vaccin Covid. La lanceuse d'alerte prouve tout cela à l'aide de travaux scientifiques. Voici un bref résumé de ses déclarations.
Les protéines spike provoquent des réactions auto-immunes. L'ARNm utilisé dans les vaccins accélère la formation de tumeurs. Les nanoparticules des vaccins font coaguler le sang et provoquent des thromboses. La contamination par ARN double brin dans les vaccins déclenche un mécanisme dans le corps qui induit des réactions auto-immunes et provoque également des thromboses. BioNTech le savait. Les vaccins contiennent des impuretés d'ADN. Les protocoles de mesure à ce sujet ont été caviardés de manière malveillante. Les vaccins mode ARN provoquent également des thromboses. L'EMA le savait déjà en 2021 et a certifié que cela ne correspondait pas au guide des bonnes pratiques de fabrication. Donc, il n'aurait pas dû y avoir d'autorisation pour le vaccin.
Malgré cela, les criminels qui abusent de leur pouvoir ont laissé les fabricants de vaccins poursuivre leurs activités en dépit de toute bonne foi.
Dans les vaccins, il y a des SV40. Ce sont des séquences de démarrage pour la production d'un virus du singe. Pour la soumission à l'EMA, il manquait l'information à ce sujet, c'est-à-dire que le fabricant a sciemment omis de le mentionner dans l'étiquetage. L'EMA ne l'a pas vérifié, alors que c'est son rôle. L'OMS voulait introduire des valeurs limites pour les substances contenues dans les vaccins. Les entreprises pharmaceutiques BioNTech, Moderna et CureVac s'y sont opposées. En fait, tous les composants auraient dû être communiqués. Les fabricants ne l'ont pas fait.
La lanceuse d'alerte Dr Sabine Stäbel témoigne qu'environ 80% des études sont falsifiées.
Septièmement, lanceuse d'alerte, les tests PCR ont servi aux services secrets pour collecter les séquences ADN.
La lanceuse d'alerte Zoe Smith a révélé une autre approche agressive de ses ennemis de l'humanité avec leur vaccin. Les tests PCR ont été utilisés par les services secrets pour collecter les séquences d'ADN. Vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche à l'arrière. Zoe Smith est une lanceuse d'alerte du domaine médical, auteure et ancienne codificatrice médicale avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. Elle décrit pour The Last American Vagabond comment les tests PCR nasaux étaient totalement inutiles et servaient à collecter des séquences d'ADN qui étaient ensuite renvoyées au ministère américain de la Santé, HHS. De là, selon Zoe Smith, le HHS partage ses données avec la DARPA, l'Agence américaine pour la recherche en armement, avec l'entreprise d'intelligence artificielle Palantir, avec Google, la CIA et même le gouvernement chinois. Smith dit, je cite,
ces frottis sont collectés et tous les laboratoires qui ont suivi le COVID-19 sont tenus par le CDC, Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, de partager ces informations. Voilà ce que fait le CDC. Ils ont donc des bases de données dans lesquelles ils suivent différentes choses. Pour le VIH, il faut leur envoyer des dossiers. Pour des choses comme le cancer, il faut leur envoyer des données. Mais pour le COVID-19, un registre a été créé et pour chaque test PCR, certaines séquences d'ADN devaient être envoyées au CDC.
Elle poursuit en évoquant un deuxième point fort de la collecte de données, le suivi des contacts.
Il existe toutes sortes de lois sur le type d'informations qui peuvent ou ne peuvent pas être divulguées.
Cet espionnage sournois du peuple montre à quel genre de philanthrope nous avons affaire.
Huitièmement, fuite des responsabilités par un délai de prescription de 3 ans pour les dommages liés au vaccin.
Et maintenant, toutes les victimes de vaccins et celles qui le deviendront risquent même de se voir appliquer un délai de prescription de 3 ans en cas de dommages liés au vaccin. Est-ce que ça vous intéresse, vous les patients, ou tout ça vous laisse-t-il indifférent? Les personnes ayant souffert d'un problème de santé ou d'une maladie consécutive à une vaccination Covid avec un vaccin ARNm, par exemple de BioNTech, ont tout intérêt à agir dès maintenant. C'est ce que rappelle l'avocat Tobias Ulbricht, qui est à Düsseldorf. Jusqu'à présent, plus de 600 plaintes pénales ont été déposées auprès du procureur général fédéral pour crimes contre l'humanité. Ces plaintes pénales seront portées jusqu'à la Cour pénale internationale de La Haye. Si cette infraction devait être confirmée par la plus haute juridiction, tous les délais de prescription que les criminels du Covid se sont fixés seraient en fait caducs. Car les crimes contre l'humanité ne sont jamais prescrits. L'avocat Ralph Ludwig l'avait déjà souligné. Pour rappel, nous en sommes toujours à nous demander ce qu'on peut imaginer à peu près comme lutte contre la désinformation. Quels faits sont considérés comme de la désinformation et doivent donc être censurés?
Neuvièmement, attentat contre une expo de photos de victimes de la vaccination à Vienne.
Un attentat à la bombe contre une expo de photos de victimes de la vaccination à Vienne doit également être considéré comme une censure agressive. De tels débordements nous alertent sur le fait que des agresseurs excités s'arment contre le peuple devenu sceptique. Ceux qui nient les dommages liés à la vaccination veulent empêcher de toute leur force que les innombrables victimes de la vaccination soient rendues visibles. L'attentat contre une expo de photos de victimes de la vaccination a été perpétré le 25 mai 2024.
Dixièmement, l'industrie pharmaceutique est désormais officiellement la première cause de mortalité en Amérique.
Une manière plus perfide de rendre invisibles les victimes de l'industrie pharmaceutique est révélée par le médecin danois Dr. Peter Götzsch, fondateur et ex-membre de la collaboration Cochrane. Il a examiné un consortium de recherche sur ce sujet. Croyez-le ou non, les médicaments légaux approuvés par la FDA et prescrits par des médecins sont l'une des principales causes de décès des Américains. Un autre détail intéressant que Götzsch exhume concerne les dossiers hospitaliers et les rapports des médecins légistes, qui sont couramment manipulés pour dissimuler la pandémie de décès d'origine pharmaceutique.
Troisièmement, le nouveau vaccin à ARNm est autorisé en Europe.
Les responsables des décès dus au vaccin Covid n'ont pas encore été mis en cause alors que le comité des médicaments à usage humain de l'UE a déjà donné son feu vert au vaccin ARNm de Moderna pour les maladies respiratoires à VRS. Ce vaccin doit maintenant être lâché sans scrupule sur l'humanité dans le sillage des vaccins Covid dévastateurs. Eva Herman a déclaré à ce sujet que pendant la pause estivale 2023, avec une procédure appelée Omnibus, une obligation de déclaration du VRS a simplement été ajouté à la loi sur la lutte contre les pénuries de médicaments et l'amélioration de l'approvisionnement, pour que personne ne la remarque.
Douzièmement, l'État libre de Bavière cherche un immense terrain pour un entrepôt central en cas de pandémie. Une autre annonce agressive ?
Le 27 mai, l'État libre de Bavière a mis en ligne une demande de location pour un entrepôt central en cas de pandémie. L'entrepôt devrait se trouver dans les environs de Munich, de préférence dans un rayon de 25 km autour d'Oberschleichheim. L'échéance à court terme a donné l'impression que tout cela se faisait dans l'urgence. Le début du bail souhaité est déjà le quatrième trimestre 2024 et la durée est fixée à 5 ans avec option de prolongation. Équipement, exigences particulières en matière de sécurité, alarmes, clôtures empêchant au moins d'enjamber, accès surveillé, fermeture centralisée, système d'alarme incendie, le cas échéant, alimentation électrique de secours et ou point d'alimentation pour groupe électrogène de secours. Selon le journal BR, l'État libre stocke des millions de matériel de pandémie, comme des masques, des vêtements de protection et des appareils médicaux en cas d'urgence.
Treizièmement, et comment réagissent les médias?
Chaque observation et chaque comparaison croisée prouve que nos médias à prélèvement obligatoire servent toujours systématiquement de bras armés à Big Pharma. Presque tous les médias du monde sont regroupés sous trois agences seulement. Mais ces agences sont gérées par des cercles de sociétés secrètes, elles-mêmes liées à Big Pharma. C'est pourquoi les médias se taisent. En Suisse, les médias proches de l'État ont également gardé le silence sur la révélation des passages caviardés des protocoles du RKI. De toute évidence, le peuple trompé ne devrait pas savoir tout cela. Mais les protocoles caviardés du RKI qui ont été révélés prouvent que les politiciens étaient déjà au courant de beaucoup de choses en temps voulu. Mais ils ont toujours mis en œuvre le contraire, ce qui a été préjudiciable. C'est pourquoi la ZDF qualifie la vaccination par ARNm de procès élégant.
C'est, je trouve, totalement rassurant et en plus, ces vaccins ARNm, c'est un procédé élégant. Ils se désintègrent, puis ils sont dégradés, puis ils disparaissent. On ne peut plus du tout les détecter dans le corps après 2 semaines.
La conclusion est que la science consultative a été bâillonnée par la politique établie. Le RKI n'était pas autorisé à émettre un avis négatif sur un couvre-feu politique.
Quatorzièmement.
La source en surimpression derrière montre comment le Vatican est également impliqué dans ce réseau de conspiration sur les vaccins.
Quinzièmement.
D'autres liens vous informent sur les conflits d'intérêts des nouveaux membres responsables de la STIKO.
Seizièmement.
Pour finir, je me permets de signaler un nouveau journal de médecins opposés au Covid, le journal de l'Alliance FLCCC. L'expert français en sécurité des thérapies et des médicaments, Marc Girard, écrivait déjà en 2004
« L'industrie pharmaceutique n'a pas seulement le pouvoir de s'attacher des experts avec de l'argent ou diverses faveurs, elle est également capable de former, de promouvoir des scientifiques qui seront finalement choisis comme conseillers par les autorités de régulation ou les institutions académiques. »
C'est sur cette dernière remarque que je conclue. Vous trouverez toutes les sources dans le générique de fin. Si nous ne nous opposons pas, en tant que peuple uni, à ces développements hautement criminels, et si nous n'informons pas tous ceux qui ne le sont pas encore, nous creuserons littéralement notre propre tombe par notre passivité. Ce sont les paroles d'Ivo Sasek qui se tient devant Dieu depuis 48 ans.